19h-20h. Les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Eh bien bonsoir, ravi de vous retrouver, vous le savez c'est toujours un plaisir. Durant une heure, les informés sur Beurre FM jusqu'à 20h, nous sommes ensemble. Vous le savez, pour une coutume qu'on ne change pas, les commentaires, les analyses et le décryptage, c'est ici que ça se passe et en toute liberté d'expression. Alors avec les débatteurs influenceurs tout à l'heure, Bruno Pomard sur le plateau, Jimmy Dalidou, Gamal Abina viendront livrer leur point de vue, leur regard évidemment, à la fois sur Elisabeth Borne qui est en plein discours devant le Parlement, les députés. On reviendra sur les différentes séquences qui ont retenu notre attention. Ensuite, vous savez, nous parlerons aussi de quelles solutions pour préserver le pouvoir d'achat. Le casse-tête de la lutte, ça c'est, eh oui, un truc y compris qui vient nous tordre le cerveau dans tous les sens, clochette, mon Dieu. Effectivement. Ensuite, les aéroports. Aïe, aïe, aïe. Aéroports, SNCF. Ces grèves qui menacent les départs en vacances, chers amis. Y a-t-il une prise d'otage? Et puis les vacanciers qui sont menacés, on va en parler, dans les gares et les aéroports parisiens. Ça fait déjà un blocus. Et un invité, des invités d'ailleurs, pour parler de Brave Moments. Ça c'est un, évidemment, c'est l'interview de ce mercredi, vous le savez, qui va essentiellement nous parler de ce pédocriminel qui dit merci, c'est des affiches bien sûr, publicitaires, mais surtout on parlera des viols, on parlera aussi, vous savez, d'agressions sexuelles, paraît-il que c'est d'actualité en ce moment. Bon, on en parlera. Et puis vous, au 01 53 48 3000, un seul numéro, c'est le vôtre. Et en toute liberté d'expression, vous nous appelez, vous commentez l'actualité, ça se passe ici, nulle part ailleurs. C'est parti, et en toute liberté d'expression, c'est les informés.
Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
Allez, c'est parti pour l'interview et l'invité du jour.
Les informés, l'interview.
L'interview, c'est avec, vous le savez, les représentants de Brave Moments. Be Brave, justement, Mie Koyama et Arnaud Gallet. Bonjour, bonsoir.
Bonsoir à vous.
Bonsoir l'un et l'autre, chacun de son côté, justement. Vous êtes nos deux invités. Vous représentez Brave Moments. Qu'est-ce que c'est que rapidement l'un et l'autre? Qu'est-ce que c'est et quelle fonction occupez-vous précisément, justement, dans cette organisation?
Mia, tu veux y aller ou j'y vais? Comme on se voit pas, mais...
Vas-y, Arnaud.
Mettez-vous d'accord. Hein.
Le Brave Movement, ce qu'on peut se dire, c'est que c'est la première fois en fait qu'il y a un mouvement de survivantes et de survivants international.
Oui.
Qui veulent demander aux politiques à travers le monde d'agir considérablement pour lutter, voire même pour éradiquer la pédocriminalité. Ça, c'est la première chose qu'on peut dire. Et donc, une fois de plus, ce sont des victimes de pédocriminalité, donc nous faisons partie, qui décident d'unir leurs forces pour demander aux États d'agir.
Je sais ce que vous appelez le G7 de, justement, de cette organisation. Alors, quand vous dites c'est la première...
Le G7, ça fait partie d'un des objectifs qu'on s'est fixés.
Oui.
Mais c'est international. Donc, c'est à travers, effectivement, le G7, on voulait attendre et on a eu d'ailleurs certaines réponses, des réponses claires aussi au niveau des États, c'est-à-dire en termes de volonté d'agir. Par contre, on va pas s'arrêter là. Pour nous, l'idée, c'est vraiment d'unir nos forces et la lutte, elle est internationale pour lutter contre la pédocriminalité.
Vous deux, même question. Vous l'avez lâché, justement, vous avez dit pour la première fois. On va s'intéresser à Be Brave France, parce que l'organisation, elle est aussi mondiale. Alors, vous dites que c'est la première fois que des survivants d'agressions sexuelles subies, justement, en France, venus du monde entier, veulent faire entendre leur voix durant le G7. Est-ce que ça a été entendu? Est-ce que ça a été capté? Est-ce que le message est passé?
Alors, oui. Alors, si je peux me permettre, effectivement...
Là, c'est Mie. Mie Koyama.
Oui, tout à fait. Merci. D'ailleurs, c'est l'association... Arnaud et moi sommes cofondateurs effectivement et fondatrices de Be Brave France, et ça incarne un petit peu l'esprit de ce mouvement. C'est vraiment un esprit qui réunit les survivants de tous les continents. On a aussi des survivants de violences sexuelles en Afrique. Alors qu'est-ce qui s'est passé au G7? En fait, c'est le résultat de 7 mois de lobbying, et pour la première fois, les dirigeants des 7 puissances du monde ont inscrit noir sur blanc un engagement à lutter contre les violences sexuelles contre les enfants. Alors, ça a l'air de rien, ce sont des mots, mais ça veut dire que les violences sexuelles contre les enfants deviennent un sujet politique Et ça fera l'objet d'un suivi lors du prochain sommet des ministres de l'Intérieur du G7 à l'automne.
Justement, donc là, il y a évidemment plusieurs affiches qui disent merci. Ces affiches, évidemment, j'imagine que c'est pour sensibiliser le grand public, est inscrit précisément, monsieur le président, j'imagine que vous adressez au chef de l'État, ce pédocriminel vous dit merci, les viols qu'il a commis dans les années 70 demeurent impunis et lui permettent de poursuivre son parcours criminel. Et d'ailleurs, un peu plus bas dans l'affiche, vous dites 90% des Français sont favorables à l'imprescriptibilité des crimes sexuels sur mineurs. Et vous dites en même temps, vous interpellez, qu'attendez-vous pour agir ? Franchement, je vous pose la question, est-ce que vous avez le sentiment que ça bouge ? On n'a pas le sentiment, moi, clairement, je vous le dis, ça fait 30 ans que ça stagne.
Tout à fait. Alors, on a voulu faire cette campagne avant le G7, qu'on va prolonger après le G7, parce que effectivement, on voulait faire une campagne coup de poing, parce que c'est un sujet de l'imprescriptibilité des crimes sexuels sur mineurs qui fait que des prédateurs peuvent être jugés tout au long de leur vie. C'est un sujet que 90% des Français défendent. Et nous, on veut pousser ce sujet. On estime que c'est un sujet de société, c'est une question de protection des générations actuelles et futures. Et c'est aussi une question pour les prédateurs de répondre de leurs responsabilités judiciaires.
Mais Emmanuel Macron, il capte le message, il l'a entendu quand vous lui, évidemment, vous l'interpellez.
Je vais répondre, Arnaud.
Oui, il capte le message. On va dire qu'il nous Arnaud a dit Galé. Il nous a dit un « je vous ai compris » classique, si j'ose dire, malheureusement, dans la politique française, sans mauvaise allusion à l'histoire, mais quand même, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a eu une loi qui a été faite, il y a eu une annonce du président de la République, il y a eu des annonces, mais en fin de compte, avec une loi aujourd'hui qui est inapplicable. Rappelez-vous que les auditeurs se rappellent le MeToo inceste. C'est-à-dire oui. Alors, les gens sont peut-être tous sur Twitter, mais on a eu 80 000 personnes qui, en l'espace de 48 heures, ont dit « j'ai été victime, ma sœur a été victime, mon frère, machin, qui m'en voulait ». Et vous avez le président de la République qui prend la parole en disant « Ah, je vous ai compris, plus jamais les victimes seront seules, etc. » Tout ce qu'on veut, enfin le truc classique. Et finalement, on a eu une demi-loi qui est inapplicable, donc personne ne parle. Un garde des Sceaux, c'est passé inaperçu, qui a quand même parlé dans l'Assemblée au Sénat, qui a parlé d'inceste consenti, avec des propos qui ont été inacceptables. Et une fois de plus, en fait, on a remis en fait le couvercle pour que les victimes se taisent. Donc nous, aujourd'hui, on dit qu'on reste une fois de plus mobilisés. On reste mobilisés pour protéger les enfants. Peut-être pour vous donner quelques éléments quand même importants en termes de chiffres au niveau du G7.
Qui
doivent marquer les auditeurs. 92 millions de victimes de violences sexuelles dans leur enfance parmi les 7 pays du G7. Ça veut dire quoi ?
92 millions ?
Un pays peuplé, ben on parle d'un enfant sur 5, vous voyez, en Europe. Donc on se retrouve facilement, donc 92 millions. Et à côté de ça, on voit bien que le problème, c'est quoi ? Il est culturel. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'on puisse agir. Il faut qu'on arrête, comme le disait ma camarade Millet, avec cette question d'impunité. C'est-à-dire que nous, le message est clair, l'imprescriptibilité, c'est d'arrêter avec cette question d'impunité que, évidemment, on a ce sourire des pédocriminels qui disent « Ah ben tiens, finalement, c'est bon, je m'en suis sorti. » Vous voyez, c'est l'affaire du Hamel.
On est dans les chiffres, justement. Quelques chiffres que je voudrais vous livrer, qui sont les vôtres. 165 000 enfants sont victimes de viols et tentatives de viols chaque année en France. Parlons de l'Hexagone. Oui. Ça, c'est vous, c'est vos chiffres. Et en même temps, seuls 4% des enfants violés ou leur famille portent plainte. Et puis, 1% des plaintes aboutissent aux assises. Est-ce qu'on a une explication ?
On a une explication. En fait, c'est un problème endémique. Vous le soulignez, effectivement, ça fait 30 ans, 40 ans, 50 ans et des siècles et des siècles que les enfants et les adultes que nous sommes devenus ont subi ces violences sexuelles. Et on a une défaillance de la réponse judiciaire. On a une défaillance de moyens. On a une défaillance en matière, effectivement, de prescription. On a une défaillance dans le parcours des victimes. Les victimes ne sont pas protégées lors de leur procédure judiciaire. On a aussi une mise en doute de la parole des victimes, avec les victimes qui sont remises en cause. Et je dois dire que quand vous nous interrogez en nous disant « mais ça fait tant d'années qu'on en parle », qu'est-ce qui change aujourd'hui ? Avec le Brave Movement, c'est les victimes qui prennent en main cette question. C'est-à-dire que les victimes estiment qu'on est les meilleurs expertes et experts pour parler de ce sujet et on compte mobiliser les pouvoirs publics, on compte mobiliser les décideurs, on compte leur demander des milliards parce que c'est un fléau de santé publique, on compte leur demander des mesures en matière de justice, de prévention et de soins parce que c'est un scandale absolu.
Justement, je sais que vous êtes déçu par les précédents mandats présidentiels. Quand on parle évidemment de violence sexuelle, d'agression sexuelle, vous avez mis en place une campagne il y a quelques jours. C'était précisément, elle était en station le 23 juin devant Matignon, me semble-t-il, avec une vraie campagne d'affichage, hein, violeur remerciant les politiques de ne pas être punis du fait du délai de prescription appliqué au viol sur mineur. La question des violences sexuelles sur mineurs, comment voulez-vous qu'elle avance dans les prochaines semaines, dans les prochains mois ?
Ah ben nous, ce qu'on souhaite de manière très claire, c'est que déjà Emmanuel Macron soit à la hauteur de ses engagements de campagne. Rappelez-vous, il a dit qu'il allait mettre la protection de l'enfance et l'inceste au rang de grande cause nationale. Alors j'espère que ça aura un peu plus de chance que les violences faites aux femmes, si j'ose dire, en termes de réalisation concrète. Mais nous, en tout cas, on va le prendre au mot. C'est-à-dire que ce qu'on souhaite réellement, ce sont... Il y a des lois, mais il y a aussi des moyens financiers. Il faut bien se rendre compte que dans ce pays, nous n'avons... Vous savez combien de centres spécialisés en psychotraumatisme nous avons en France ? Je vais vous donner le chiffre. Oui. Il est très simple, c'est zéro. Spécialisé dans les violences sexuelles, c'est-à-dire pour les victimes, alors que c'est même... La France avait pris un engagement au niveau de la Convention d'Istanbul.
C'est
la
terrible.
France ne respecte pas ses engagements, c'est et donc terrible. La France, on demande aujourd'hui... qu'elle applique ni plus ni moins tous les engagements qu'elle a pris, tant au niveau de la Convention internationale des droits de l'enfant. Il ne s'agit pas uniquement de faire de la communication et de se dire c'est pas bien la violence faite aux enfants, c'est pas bien de violer un enfant, etc. Il s'agit d'agir, il s'agit de réellement les protéger.
Non mais c'est terrible. C'est terrible. Mie Koyama et Arnaud Gallet, j'ai Bruno Pomard, un débatteur sur le plateau, justement, dans Les Informés, qui souhaite vous interpeller, ancien du RAID et chroniqueur télé et radio. Bruno Pomard, vous souhaitez les interpeller ?
Oui, pour leur dire quand même que le nouveau gouvernement, je ne suis pas le porte-parole de madame la première ministre, mais
Elisabeth Borne.
Oui, Charlotte Caubel a été nommée ministre à la protection de l'enfance il y a peu de temps. Elle a été patronne, puisque je travaille avec elle sur la PJJ, la protection judiciaire de la jeunesse. Je pense que c'est une interlocutrice privilégiée pour vous, pour faire des avancées. Je pense que ça va aller dans ce sens. Mais je voudrais dire quand même qu'il y a des choses qui ont été faites. Moi, j'ai inauguré il y a quelques jours SOS Village d'enfants, qui est en train de se développer de plus en plus. Ce sont des villages qui accueillent avec des éducateurs des enfants traumatisés, des enfants qui ont été violés, martyrisés même. J'en ai visité un à Guerville dans le 78. C'est soutenu par le département, par la région. Et il y a pas mal de maisons comme ça qui se mettent en place. Donc il y a quand même des choses qui sont faites dans ce domaine. Mais peut-être pas assez, je suis d'accord avec vous. Mais
monsieur, si je peux me permettre.
Oui, bien sûr.
Si je peux me permettre, parce que j'étais directeur d'un village. J'ai été directeur d'un village d'enfants. Vous voyez, vous avez entièrement raison. SOS Village d'enfants et d'autres associations font un travail formidable dans la protection de l'enfance. La vraie question de fond, c'est quels sont les moyens pour intervenir en village d'enfants, par exemple, par rapport au psychotraumatisme des enfants. Vous voulez que je vous donne la réponse ?
Oui.
Il n'y a pas de moyens. C'est-à-dire que vous avez certes des psychologues qui sont mis, mais les psychologues ne suffisent pas en tant que tels, puisqu'il ne faut pas créer ce lien de dépendance, il faudrait des structures ad hoc pour être en capacité d'accompagner. Vous avez raison, le village d'enfants, pour préserver les liens de fratrie, notamment, c'est une bonne réponse. Mais la question n'est pas que là, finalement. La question, elle est beaucoup plus profonde en tant que telle. Vous avez raison, monsieur, aussi par rapport à Madame Caubel. Sauf que Mme Caubel n'est pas ministre, elle est secrétaire d'État. Il y avait une volonté du président de la République de donner un marqueur fort au niveau de la protection de l'enfance. Il aurait nommé un ministre avec de vraies délégations par rapport à ça. Mme Caubel, qui est peut-être très bien, que je connais aussi par ailleurs, regarde mes fonctions de directeur général d'une fondation qui intervient dans la protection de l'enfance, notamment au niveau de la PJJ. Mme Caubel n'a pas, je dirais, elle a un portefeuille de secrétaire d'État. Alors bien entendu, nous on est ouvert à toute discussion avec Mme Caubel, vous avez raison de le souligner, on souhaite effectivement que ça avance dans le bon sens, sauf qu'aujourd'hui, on souhaite des actions fortes, on a demandé effectivement, et on demande à être reçu aussi pour que les choses puissent avancer. Maintenant, on a un objectif qui va arriver au mois d'octobre avec la réunion des ministres de l'Intérieur autour effectivement du suivi suite au G7, il faut absolument que la France ne loupe pas.
Alors,
la France est au dernier rang des pays du G7 en matière de...
Justement, pour répondre à votre question concrètement sur qu'est-ce que nous attendons des prochains mois et qu'est-ce que nous voulons exactement, mais en fait, si vous voulez, le problème, il est mondial. Le problème en France, c'est un problème de santé publique majeur. Donc, il faut mobiliser des moyens. Et si vous voulez, la raison pour laquelle on a associé le combat qu'on mène en France à un mouvement international, c'est parce qu'on pense qu'en mobilisant les dirigeants du monde entier, la France va bouger aussi. Parce que ça fait des années qu'on se bat en France et on n'obtient pas de résultats. Alors qu'est-ce qu'on demande concrètement ? On demande un sommet mondial le 18 novembre en vue d'un engagement international initial de financer chaque année à hauteur d'1 milliard de dollars le Fonds mondial de l'ONU qui lutte contre les violences sexuelles. On demande de légiférer, de créer un Internet sûr pour les enfants. Et à ce titre, on soutient un projet de législation européenne qui vise à obliger les plateformes à détecter, à signaler et à retirer les contenus pédocriminels. Il y a un manque de moyens sur cette question en France et dans le monde. Et troisièmement, on demande la création de comités internationaux, d'un comité international de victimes qui soit un interlocuteur privilégié du G7. Et la même chose déclinée en France. C'est-à-dire que la CIVI, c'est très bien, mais on veut des comités nationaux de victimes qui soient des interlocuteurs des pouvoirs publics.
D'une phrase, en quelques secondes, on arrive au terme de cette interview. Millet, Arnaud, qu'est-ce que vous avez envie de dire à celles et ceux qui vous écoutent partout en France ?
Alors moi j'ai envie de dire, rejoignez-nous, parce que le Brave Movement, Be Brave France, c'est un mouvement de victimes et on a besoin de cette solidarité, de cet élargissement, on a besoin de faire nombre et pour pouvoir peser. Donc venez, allez sur le site internet du Brave Movement, allez voir notre compte Twitter Be Brave France. On va se développer, on va continuer nos actions et ensemble on est plus fort.
Arnaud.
Écoutez, dans la continuité de ce que dit Millet, tout simplement, et je pense que c'est important quand elle parle de victimes, je pense qu'on est toutes et tous victimes de pédocriminalité. Il y a des victimes et des co-victimes, vous voyez, un peu comme les violences conjugales. Pour qu'on puisse isoler, en fin de compte, les agresseurs, il faut absolument qu'on comprenne que l'agresseur met en place une stratégie avec tout un système, et donc nous sommes toutes et tous victimes de la pédocriminalité.
Merci.
Il faut que ce soit un sujet de société. Rejoignez-nous, c'est important. Be Brave France et Be Brave.
Be Brave France, justement. Qui est l'émanation de Brave Movement, justement, le mouvement mondial porté en France par Millet Koyama, présidente de Moi aussi Amnésie, Arnaud Gallois, cofondateur du mouvement Prévenir et Protéger. Ils sont l'un et l'autre fondateurs donc de Brave Movement France. Merci d'avoir été avec nous, Millet Koyama et Arnaud Gallois. Et évidemment, faut rien lâcher.
Merci bien.
À très bientôt. On va marquer une pause pub, tiens. Et on va se retrouver avec nos débatteurs. Bruno Pomard, bonjour.
Salut Adil, salut aux auditeurs de Beurre FM.
Jimmy Dalidou, comment ça va ?
Ça va et vous ? Bonsoir à tous.
Et Gamal Abina.
Bonsoir Adil, vous allez bien ?
Eh bien, on se retrouve tout de suite après pour parler d'Elisabeth Borne au Parlement. A tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h-20h. Les informés avec Adil Farkan.
19h25 et c'est parti pour le face-à-face.
Les informés. Le face-à-face.
Et puis le 01-53-48-3000, vous pouvez intervenir quand vous voulez. Bruno Pomard, Bruno Pomard qui est évidemment le patron de la fondation Raid Aventure,
oui,
absolument.
C'est ça,
ancien du Raid, aussi chroniqueur média, télé, bienvenue.
Merci.
Jimmy Dalidou, représentant CGT, mais également aussi auteur, bonjour.
Bonjour à tous.
Et enfin, un autre commentateur politique, mais aussi le porte-parole du mouvement des sans-voix.
Et au droit civique.
Droit civique, pardon, excusez-moi, Gamal Abina. Gamal Abina, ça va?
Ça va très bien.
C'est aussi décembre.
Un petit peu, oui.
Aussi. Alors, Elisabeth Borne, la toute première ministre, justement, a vécu aujourd'hui son baptême du feu, messieurs, devant le Parlement, l'Assemblée nationale. Alors, elle a prononcé sa déclaration de politique générale. On est d'accord. Enquête, évidemment, de compromis. Bon, vous allez nous dire comment vous l'avez vécu et puis surtout, on a vu quand même les attaques à la fois des uns et des, notamment Jean-Luc Mélenchon qui dit ça ne passera pas crème. C'est très tendance de dire ça ne passera pas crème. Le Front National qui lui aussi lâche quelques scuds. Alors, Bruno Pomard.
Bah écoutez, moi je trouve que l'exercice de Madame Borne, j'étais surpris, a été réussi. On ne peut pas dire le contraire. Elle a su faire passer les messages qu'elle voulait. Elle a fait une proposition, beaucoup de propositions qui allaient dans le sens de l'ensemble de la représentation parlementaire qui était là, évidemment. De l'ANUPS en passant par le LR, évidemment l'AREM puisque c'est Renaissance, et les LR. Donc je pense que, et le RN, pardon. Je pense qu'elle a réussi son exercice, même si elle n'a pas demandé le vote de confiance. On le sait, la gauche a demandé motion de censure, mais effectivement, elle n'a pas souhaité, elle, faire le vote de confiance. D'ailleurs, c'est pas la première fois, c'est pas la première ministre qui le fait. Donc, voilà. Donc, ça peut interpeller, effectivement. Mais sur le fond, moi, je trouve qu'il y a plein de propositions très intéressantes qui devraient plaire et à la gauche et à l'extrême gauche, extrême droite, pardon. Donc, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de positif. Maintenant, il faut aller jusqu'au bout, hein, parce que les propositions, c'est pas des choses concrètes, mais je pense qu'il y a des choses intéressantes à suivre.
Surtout, c'est que est-ce qu'elle va pouvoir, évidemment, avoir une adhésion de confiance à Jimmy Dalidou?
Ouais, non, bah, alors, deux choses, hein, je dirais que, Madame Borne, en tant que grand représentante du capital, dépasse les bornes.
Ah,
je dirais,
il va fort là, ça y est.
Parce que il faut pas oublier une chose. Il y a deux choses. Alors, première chose, faut pas oublier que il y a eu des élections, d'accord, des élections législatives. et que la classe ouvrière et les couches populaires, donc la majorité des Français, a fait sécession, puisque 50% des Français n'ont pas voté. Donc on peut faire ce qu'on veut, on peut dire ce qu'on veut. Ce qui se passe, ils sont que ce soit au niveau des parlementaires, au niveau de l'exécutif, de toute façon, ils sont pas légitimes. Ça, c'est la base, c'est le cadre général.
C'est pas sympa pour les
ensuite,
LFI,
hein. Ensuite, faut pas oublier ce qu'elle a dit, madame.
Il vous dit que c'est pas sympa pour les LFI.
Qui dépasse les bornes. Elle disait, je cite, qu'elle ne
dépasse les bornes. Qu'elle, qui double clochette, il a été la chercher celle-là.
Elle ne sollicitera pas la confiance des parlementaires. Ça, c'est le principe constituant de son discours d'orientation générale. Ça montre bien qu'en fait, vous savez, la bourgeoisie monopoliste, elle contrôle la structure électoraliste. Mais parfois, il y a des personnages qui passent entre les mailles du filet. Donc, ça veut dire que l'exécutif, lorsqu'elle les fasse, je pense notamment à Rachel Keke, etc., que j'ai félicité pour leur élection. Et ben, quand ces personnages-là, quand ces groupes-là, quand l'exécutif sont face à des personnages qui sont passés comme ça entre les mailles du filet, et ben, ils sont dans la négation et ils sont dans, ben quand on parle de dictature du capital, on parle de ça. Ce sont des gens qui ne veulent pas partager le pouvoir.
Madame Keke,
ça,
c'est la base de la dictature du capital. Madame n'est pas exemple.
Madame
Borne
est une grande représentante de la dictature du capital.
Oui, je parle
de
Madame Keke, puisque tu
veux. Madame Keke est une représentante de la classe
ouvrière. Elle avait des tweets antisémites et autres.
On le veuille ou non. Après, on verra ce qu'elle fera. Oui. Quelle orientation politique elle donnera. Et moi, je pense que son organisation, la NUPES, est un véritable problème par rapport à ses velléités de femmes travailleuses. Et moi, je pense que là, il y a une contradiction qu'elle ne dépassera pas. Maintenant, son élection.
Que le Parlement n'est pas légitime. Ça veut dire que même la France insoumise n'est pas légitime, évidemment. Oui, donc je pense que c'est quand même surprenant.
Et là, on voit bien que l'exécutif est embêté parce que le pays va devenir ingérable, ingouvernable. Et je pense que ce discours d'orientation générale amorce la dissolution, le projet de dissolution. Je suis certain que Jupiter, là-haut, il a déjà dans sa petite tête de banquier le projet de dissoudre l'Assemblée nationale parce qu'il veut diriger tout seul, avec une majorité absolue, des gens qui disent oui à tout, des bénis oui-oui, qui disent oui à tout ce qu'il dit. C'est ça qui veut.
Gamal Abina. Ah, tiens.
Bon, déjà, pour l'affaire Keke, c'est vrai qu'il y a un passé assez cradingue, malheureusement. Elle a eu beaucoup de postes qu'elle a fait liés à l'extrême droite, le Front National, les identitaires, quand même ça, elle te souche. Donc ça, c'est quelqu'un de malsain, faut être très clair. On avait l'impression qu'elle était bien parce que c'est vrai que son rang social lui donnait cette belle image. C'est là que machin, en réalité, c'est quelqu'un de malsain qui a un problème avec ce qu'on va appeler les maghrébins de France et autres.
Bien sûr.
Donc, bon, ça, c'est malheureusement.
Mais c'est Fan de Nage qui a été élu, quand même.
Oui, mais ça, c'est un cliché.
Je parle pas du symbole.
Si tu soutiens ce type de personnage,
bien t'en prends ses responsabilités.
Non, mais t'as le droit de prendre.
Je distingue le symbole qui est fort, il n'y a pas de problème. Il y a un autre homme, je crois, il me semble, de la classe ouvrière qui a été élu, et de ses positions qui sont plus que critiquables, et c'est dommage, parce que c'est un symbole fort. Okay. Maintenant, pour revenir au discours de Mme Borne. Donc, Mme Borne a fait un discours exceptionnel, je suis d'accord, très bien amené, ou qui ratisse large. Elle a dit un truc qui était très surprenant et qui rappelle les années Mitterrand. Elle a dit qu'ils allaient, bon, ils ont déjà 85%, je crois, d'EDF France. Oui. Eh bien, ils vont le nationaliser.
Il va rester un peu. C'est ce qu'elle réclame.
Voilà. Donc ça, c'est quand même une reprise du contrôle de ce qu'on appelle les énergies, donc ce qui fait la vie d'un pays. Elle a dit aussi beaucoup de choses qui sont contradictoires. Elle a dressé un bilan plutôt élogieux de l'action gouvernementale sur les 5 dernières années, qui est pas tant que ça a réussi, loin s'en faut. Mais surtout, elle propose des choses qui peuvent être surprenantes. Alors, on verra maintenant à l'application si on aura le courage de bloquer les prix, par exemple. Là, on parle. Par contre, moi, ce qui m'a dérangé le plus, c'est de dire on va faire des compromis, mais pas de compromission. Bon, ça, c'est beau, c'est une belle formule. C'est comme quand il s'appelle Monsieur France Insoumise qui nous sort sa passe crème. C'est bon, le jeunisme, ça va 5 minutes, ça, oui. C'est un peu ridicule. Soyons sérieux sur une situation de crise.
Et les débordements aussi de la NUPES, de la France Insoumise, oui, justement, lors du discours.
Elle passe son temps à invoquer la guerre en Ukraine, qui est un prétexte pour justifier tout le reste. Ça, c'est intolérable. Tout ne se passe pas en Ukraine.
C'est vrai. Et ça énerve tout le monde.
Surtout, il y a une chose importante, c'est que moi, je n'ai pas aimé un propos qui va poser problème. Liberté, égalité, fraternité, on comprend. Laïcité. Ça veut dire que le fondamental des trois années de crispation sur les questions de la laïcité sont remis sur la table. Elle l'a servi plusieurs fois par rapport à l'école, l'éducation, l'égalité. Ça pose problème. Donc moi, je pense qu'il y a une urgence effectivement climatique, mais ça, le climat, elle revisite à sa sauce. Elle veut du tout nucléaire. Donc ça, à la limite, je suis pas contre parce que c'est vrai qu'il n'y a pas d'alternative. Elle explique aux Français que vous allez souffrir. Parce que de toute façon, le gaz va coûter très cher. C'est annoncé. Elle propose un blocage de l'énergie électrique, évidemment, puisqu'ils vont avoir le contrôle d'EDF, donc c'est facile. Et elle explique, en revisitant le scénario qui a l'air mignon, dans un pays où on a à peu près une inflation à 5%, en réalité, la vraie inflation, c'est autour de 8-10% en Europe. La France n'est pas épargnée. Donc elle explique qu'ils...
Alors c'est quoi ? Faut écrire une nouvelle histoire ?
Les Français. Moi je pense que...
C'est quoi ?
Ce discours général est intéressant parce qu'il y a des choses...
On va l'écrire ensemble, mais avec qui ?
Oui, non, mais ensemble, c'est ça, c'est du baratin. C'est, elle avait prévu avant parce que M. Macron est un vrai communicant. Là-dessus, on ne peut pas lui retirer ça. Ensemble, alors qui sait qui va se voter ? Il se vote, il n'a pas la majorité absolue. Maintenant, ensemble, débrouillez-vous pour trouver une solution. Ce qui se passe, c'est qu'il inverse la charge de la preuve. Il ne dit pas « j'ai perdu, je suis donc en difficulté ». Vous me mettrez en difficulté, vous, si vous ne me rejoignez pas. Donc, c'est une injonction à adhérer à son programme très large, il a ratissé large, dans le but de dire « ah, regardez les Français, nous, on est sympas, on a tout proposé ». Le nucléaire, l'égalité des chances,
la réforme des retraites
sociales, la réforme des
pouvoir d'achat.
Mais stratégiquement, c'est très fort.
C'est très fort. Et maintenant, comme il a fait pendant 8 minutes, et maintenant, il dit quoi ? Il dit, si vous n'adhérez pas à nous, vous êtes les responsables, vous coulez le pays. Donc, ensemble. Voilà comment il a fait.
C'est très bien. Mais tu sais, dans ce
en gros, c'est vous les fautifs.
Ouais, je partage complètement ton analyse, mais en même temps, c'est très stratégique et c'est très. On est tous dans le même bateau. À un moment donné, on a fait cette espèce de comment dire de d'ouverture à l'Assemblée nationale et ce qu'attendaient les Français et on en a la preuve. Hein, on a eu une espèce de une ouverture où on a de la NUP, on a du LR, du RN. Bon, ben il y a toute la représentation des Français. Et moi, le premier, je le souhaitais. Je suis pas NUP, je suis pas LFI du tout, ni LFI, ni RN. Mais je trouvais pas normal que l'Assemblée nationale soit pas représentée par ces gens-là.
Voilà. Le problème, Bruno, c'est que pas comme tu dis, on n'est pas dans le même bateau. C'est un petit peu
Et je pense qu'on va devoir
parce que non,
tous ces partis vont devoir
s'associer
sur des projets.
On n'est pas dans le même bateau, Bruno. Il y a le problème. Le problème actuellement dans ce pays, c'est que vous avez, pourrait-on dire, un accroissement des fortunes qui est, c'est ce qu'on pourrait appeler un accroissement féerique des fortunes, alors que tu as une misère sociale qui devient un véritable cauchemar pour les Français. Lorsque tu touches, c'est la réalité concrète de plusieurs milliers d'euros, on n'est pas tous dans le même bateau. La réalité, elle est là.
Il te dit que
tu fais de la géopolitique, on s'en fout.
Non, mais c'est la réalité, la réalité concrète du pays.
On s'en fout.
Mais il y a aussi un élément que vous oubliez.
Faut pas oublier une chose.
C'est que la France est un pays impérialiste qui est dans une structure européenne. Je rappellerai aussi que les instances européennes ne sont pas des éléments qui donnent des conseils comme ça aux États. La Commission européenne et toutes les structures européennes sont des instances impérialistes qui donnent des directives, oui, des obligations aux États. Donc de toute façon, que vous le vouliez ou non, ça, il faudra en parler aussi. Parce que l'exécutif, Madame Borne,
le
grand représentant du capital et son copain Macron banquier, leur objectif, c'est de mettre en application misère sociale qui est une directive des instances européennes.
Mon cher Jimmy, t'as des éléments de langage, tu sors toujours les mêmes éléments de langage. Parlons.
C'est pas les mêmes éléments de langage. C'est ce que vivent la plupart des Français, monsieur.
Parlons de ce qu'a proposé Madame Borne. Le sujet est important de savoir ce que.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui va se passer dans la rue et dans les
médias. Laisse-moi finir.
Ce que dit la grande représentante des banquiers, en fait,
mais franchement,
la plupart des Français vont dire, je m'en fous de ça.
Ça veut strictement rien dire.
Parce que ça changera rien.
C'est du marxisme à deux balles, ça. Ça veut rien dire.
Les Français vont te dire, j'en ai rien à faire de ce que t'as dit, parce que demain, j'aurais toujours rien à bouffer.
C'est ça, la réalité. Les seules choses que veulent les Français, ce sont des solutions. Les propositions, elles ont été faites.
Maintenant,
c'est à l'ensemble de l'Assemblée.
De modification de leurs conditions de vie. C'est ça, concrètement, qu'il faut. Augmenter les salaires. Ça, c'est une réalité sociale.
Voilà, là, c'est important que de me parler.
Gamal Abina.
Une chose importante. Donc, dans ces propositions pêle-mêle, il y a des choses généreuses dedans. Il n'y a aucun problème. Il y a des choses qui sont difficilement finançables. Elle a parlé d'une chose qui va poser problème et qui va se heurter à toutes les réalités qu'elle a proposées, qui sont un conte de fées. Elle dit, nous devons impérativement, et là, c'est le banquier, effectivement, qui parle, nous devons impérativement à satisfaire à nos obligations européennes, à savoir les 3% de déficit. Donc, faire une économie de 80 milliards, alors que de l'autre côté, elle dit, on va généreusement distribuer, par exemple, elle propose de ne plus faire payer la redevance TV. 138 euros par famille, 20 millions de foyers, je vous laisse calculer. C'est vous dire que... Elle fait beaucoup de propositions de réduction de sources de revenus de l'État et des dépenses qui sont proposées aussi avec les aides aux entreprises, tout ce qui est énergétique et tout. Et de l'autre côté, elle dit, on doit absolument faire, dans deux ans, je crois, si je ne me trompe pas, revenir aux 3% de déficit des fameux traités de convergence. Donc, enfin, les fameux... les traités de convergence de Maastricht, excusez-moi. Et donc la problématique qui se pose aujourd'hui, c'est quoi ? C'est de dire, je vous fais une belle proposition qui sur le papier sont formidables. Là-dessus, je peux pas dire le contraire. L'égalité des chances, la promotion, la culture gratuite pour la jeunesse et tout. Et de l'autre côté, elle nous explique qu'il faut faire des économies et qu'il faut lever des capitaux pour pouvoir réduire les déficits.
On revient justement, je suis contraint de marquer cette seconde et dernière page pub. Messieurs, ne bougez pas, surtout pas, et y compris vous, 01 53 48 3000. Nous reviendrons notamment, vous savez quoi, sur le justement, tiens, on va parler de pouvoir d'achat.
Tiens donc, ça c'est une bonne, un bon sujet.
Ben, à tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
Et les informés, c'est avec Bruno Pomard, avec Jimmy Dalidou et enfin avec Gamal Abina. Nous poursuivons ce second sujet qui a retenu notre attention aujourd'hui, d'inflation. Quelle solution pour préserver tout simplement le pouvoir d'achat? Mais attention, un chiffre. En mai dernier, le taux d'inflation annuel est estimé à 8%, 8,1%. Bon, bref, quelles sont les solutions, messieurs? Mais surtout, va-t-on sortir de cette galère ou peut-on craindre le pire? Pire scénario, évidemment. Bruno Pomard.
Bah, écoutez, je crois que ça a été dit tout à l'heure par notre ami, l'inflation est entre 8 et 10%. Mais qui est le maître de l'inflation? C'est la BCE, la Banque européenne, c'est clair, c'est Madame Lagarde. Donc, je vous rappelle qu'elle est française, donc ça peut peut-être nous aider.
Mais comment on résiste? Faut savoir quand même qu'on était dans un... Comment on va résister? Bah, quelle solution pour résister justement à cette inflation?
On résistera. Il y a des blocages de prix qui sont faits. Non, il y a des propositions qui sont intéressantes pour le pouvoir d'achat. D'abord.
Apparemment, les Français ont du mal à résister, hein, parce que l'inflation engendre une misère sociale.
Ils se sortent une crainte.
Ah, mais je voudrais revenir sur un élément, parce que faut pas oublier une chose, c'est qu'il nous parle souvent du rapport salaire-prix. Vous savez, genre, on peut pas augmenter les salaires, parce que si on augmente les salaires, ça va forcément augmenter les prix au retour, et sur une base d'inflation qui est déjà entre 8 et 10%, forcément, il va y avoir une augmentation du prix, puisque vous savez que la somme totale des prix à réaliser sont conditionnés par la masse de monnaie circulante. Donc forcément, si vous augmentez les salaires, vous augmentez les prix. Mais ça, l'arnaque, elle est où, l'arnaque?
La masse de monnaie circulante, je suis pas d'accord. Mais
l'arnaque, elle est où? L'arnaque, elle est que le rapport salaire-prix est conditionné par le capital, c'est-à-dire le profit. Donc il faut augmenter les salaires. Il faut établir un maximum général pour les produits de première nécessité alimentaire, et dans le même temps il faut agir sur les profits. On a plus de 100 milliards qui sont planqués dans les paradis fiscaux. Eh bien, on va les chercher de force et on récupère la thune, on la ramène ici.
Ça fait 15 ans qu'on en parle, les socialistes, quand ils étaient au pouvoir, n'ont pas rien fait là-dessus.
Moi, je pense qu'il faut...
Mais si, on l'a fait. Et l'économie était bien mieux que l'économie capitaliste impérialiste.
Je peux pas te laisser dire... Enfin, il y a une petite erreur dans ton analyse. Il faut expliquer ce qu'est l'inflation. L'inflation, c'est quoi? Il y a deux mécanismes dans l'inflation. Il y a soit l'inflation des prix, donc l'augmentation des prix, donc la perte de pouvoir d'achat. Parce que pour le même prix, si on a 100 euros de capacité d'achat, on perd 8 euros de pouvoir. C'est ça, l'inflation par les prix. Et il y a l'inflation par l'augmentation des salaires. Le problème du système capitaliste qu'on peut critiquer, c'est que lorsqu'il y a une augmentation des prix, elle est mécanisée par quoi? Par le coût de la fabrication des produits qui est lié à la matière première, l'énergie et les différents produits pour fabriquer un produit. Donc ceux qui créent la richesse, donc les patrons, les grands patrons que tu vas détester forcément.
Non, ils disent, je suis pas
d'accord
avec toi.
Non mais
on va y arriver. Finis, je te réponds après.
Ils disent quoi? Ils disent non mais on a un surenchérissement des coûts de fabrication à cause des matières premières, la guerre d'Ukraine et tout le reste, et puis les deux ans de Covid, et donc mécaniquement nous on va augmenter nos prix. Ça c'est la justification.
Ouais. Bon.
Non, c'est ce qu'ils disent pour justifier. Après, qu'est-ce qui se passe? Les syndicats interviennent, ils disent ouais d'accord, mais il y a une perte de pouvoir d'achat, donc nous vous devez augmenter les salaires. Et c'est là où on rentre dans le cercle vicieux qui fait qu'on ne devrait pas faire ça. On ne doit pas justifier une augmentation des prix avec une augmentation des salaires qui font une course effrénée comme on le voyait dans les années 80. Ce qu'il faut, c'est qu'on bloque les prix, et là on se rejoindra, on bloque les prix, qu'on interdise cette surenchère, et Michel-Édouard Leclerc a dénoncé cette spéculation sur les produits, on parle de spéculation, et juste on bloque les prix pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de course entre le salaire et les prix. Pourquoi? Parce que quand les prix des produits coûtent trop cher, il y a une perte de pouvoir d'achat, donc ceux qui sont salariés, attendez, on peut plus se payer parce qu'on perd 8 euros, augmentez-nous. Et à chaque fois, on va de plus en plus loin et on se retrouve dans une
situation.
Sur deux choses que tu as dit, Gamel. Alors, que les choses soient claires. Alors, le prix, c'est quoi un prix? Le prix d'une marchandise, quelle que soit la marchandise. Mais comme le disait Aristote, une maison est égale à un lit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prix, c'est la dénomination monétaire d'une valeur.
Bien sûr.
Une valeur. Et la valeur, elle vient d'où, la valeur? Comment détermine-t-on la valeur d'une marchandise?
Exact.
On détermine la valeur d'une marchandise, quelle que soit la marchandise, sa valeur, c'est une quantité de travail humaine coagulée. Elle est déterminée par
et de coût de fabrication.
C'est la quantité de travail humaine cristallisée dans la marchandise, dans la valeur.
Et la matière, elle a raison.
Et de
matière.
Oui, non, mais attendez, j'y arrive, c'est le deuxième point.
D'accord, merci.
Donc, ça veut dire que le prix, je reviens à cette réalité, que le rapport prix-salaire est commandé et défini, conditionné, est commandé, si vous voulez, par le capital, le profit. Mais le problème, c'est que le capital et le profit, il est pas réparti, il n'est pas fait pour être réparti. Il est fait pour aller dans la poche de la même classe sociale,
oui,
dominante, propriétaire des moyens de production. Et donc, ça nous emmène vers un autre point. Et là, on parle.
Attends, pas fini. On revient sur le coût de fabrication. Il y a le salaire d'un côté et la matière.
C'est justement ça que je voulais parler. D'accord. Parce que, effectivement, après, il faut intervenir sur les TPE, PME, PME, les matières premières qui coûtent cher. Parce que qu'est-ce qu'ils nous disent, les petits patrons? Ils nous disent, je veux bien augmenter les salaires. Mais si j'augmente mon salaire, alors que ma matière première, je la paye trop cher, je peux pas augmenter les salaires. Et en plus, j'ai des charges sociales qui s'ajoutent. Mmh. Ça, dans le processus de production capitaliste, c'est ce qu'on appelle le coût du capital constant. Capital constant.
Alors, comment on se protège face à l'inflation? Comment on se protège?
Il faut augmenter les salaires. Et là, on est d'accord, un maximum général sur les prix. Et il faut intervenir sur les charges sociales. Il faut exonérer les charges.
De côté.
Il faut exonérer les TPE, PME et PMI qui payent les charges sociales à la place des multinationales. Comme ça, ça va leur permettre d'augmenter les salaires. Augmenter les salaires et en même temps, on bloque les prix à maximum général par rapport aux denrées alimentaires. Parce que je finirai sur une chose. Je suis d'accord avec ce que disait Pierre Kropotkin quand il disait que tout ce qui est nécessaire à la vie est aussi sacré que la vie entière. Point barre. Et à partir du moment où tu payes trop cher l'eau et le pain, ça peut pas aller.
Oui, tout ce qui est c'est gentil. Alors ça c'est des discours de dire toujours on baisse les charges des entreprises, TPE, PMI, tout ce que vous voulez. Et puis on augmente les salaires. Et comment on remplit les caisses d'État? L'équation, il faut juste me l'expliquer parce que ça c'est une simplicité.
T'as 200 milliards bloqués dans un paradis fiscal et pourtant on n'en parle pas.
Mais les grandes familles en France.
Ah, les 200 milliards, excuse-moi, t'as des choses à faire avec.
Énormément d'impôts, les Dassault, les Pinot, les Bettencourt, ils créent des emplois.
J'ai quelques chiffres pour vous d'ailleurs si ça vous intéresse.
Mais par contre, ça répond pas à la question. La vraie question qui est posée, c'est comment faire en sorte que le pouvoir d'achat se dégrade pas et comment faire en sorte que l'inflation qui est là, réelle, de 8-10%, nous assassine pas. Et bien, le seul moyen, il est simple, c'est que l'État prenne ses responsabilités, comme le CNR à l'époque après la Seconde Guerre mondiale, qu'ils disent à partir de maintenant, il faut garantir, et tu parlais des différentes strates, la pyramide, la fameuse pyramide Maslow, les besoins primaires doivent être satisfaits, logement, nourriture, évidemment sécurité, de ce point de vue-là, et il faut garantir qu'il y a un contrôle par l'État des prix, parce que Michel-Édouard Leclerc a dénoncé la spéculation qui est faite.
Il l'a fait il y a 3 semaines.
Et ça, c'est formidable. Non, mais il a demandé une commission d'enquête, donc il va très loin. Moi, je le remercie pour une fois, ce monsieur Leclerc, qui n'a pas forcément été formidable tout le temps, là-dessus, comme on voit que c'est fils de pauvre au départ, là-dessus il y a de la spéculation. Et c'est pour ça que je dis, si on veut et si l'État veut faire le travail, il faut absolument impérativement, sur une centaine de produits, garantir le contrôle des prix. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, vous voulez libérer du pouvoir d'achat. Elle a parlé d'un grand chantier de construction de logements bornes. Je dis qu'il faut impérativement que l'État impose la baisse des loyers. Parce que si vous baissez les loyers, pas besoin d'augmenter les salaires, vous baissez les loyers, libérez du pouvoir.
Excusez-moi, il y a un blocage des loyers.
Je parlais de baisse des loyers, je ne parle
pas de blocage.
On est parti en spéculation anglaise. Alors, il justifie l'augmentation des loyers par l'Angleterre. C'est intolérable.
Et il va y avoir une rehausse des APL.
Oui, j'ai appris ça.
Mais c'est pas les APL, c'est ceux qui ont le plus de
problèmes. Moi, je suis contre ça, les APL, c'est encore une fois le contribuable qui en
met. Ce qui nous gêne le plus, c'est encore une fois ce qui va venir en soutien, mais je sais bien que Jimmy sera d'accord là-dessus parce qu'il considère que l'État doit payer à tout prix, c'est-à-dire nos impôts, les gens qui travaillent.
Non, je dis que c'est le peuple travailleur qui génère le profit. Donc, à un moment, il faut qu'il envoie la couleur, quoi.
Non, non, oui, mais l'État
distribue. Ah, non, mais voilà. C'est la force de travail humaine exploitée qui est génératrice du profit.
Il faut arrêter de dire des bêtises.
Tu relis Adam Smith, tous les économistes le disent.
Non, les personnes
Marx, juste les bases de votre système.
Mais ne fais
c'est
pas
la force de travail exploité qui génère
ceux
le profit.
Qui nous écoutent, ça
veut dire ce que vous voulez.
Ils veulent des choses concrètes. Ce que je te dis simplement, c'est qu'encore une fois, l'État français, c'est l'État qui fait le plus de redistribution en Europe au niveau social. Donc là-dessus, on peut pas dire au contraire.
Maintenant, parce que le peuple français a démontré plusieurs fois qu'il était pas à se mettre en mouvement. Et il a une histoire révolutionnaire, le peuple français.
Il faut travailler, c'est tout.
Absolument. Un sujet hautement, évidemment, intéressant. On va continuer d'en parler tout l'été. Des départs qui sont en difficulté, des départs en vacances, je parle, qui sont menacés par qui, monsieur Jimmy Delisle?
Lasneff, c'est vous.
Ah, il va nous dire que c'est normal. C'est la faute du capital.
Mais les vacanciers, ils sont en galère. Les vacanciers commencent à être menacés justement par les grèves. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je vois là des images, justement... Prise d'otage.
C'est la faute du capital, il va nous dire.
Alors,
t'inquiète, Gigi Popo, c'est pas ça.
Jimmy Dalidou.
Non, déjà, je voudrais revenir sur les termes qui sont employés par les médias en France.
Non, mais là, c'est bloqué partout dans les
médias. Ouais, non, mais attendez, déjà.
Partout.
Vous foutez le bordel, c'est tout.
On a encore en tête ces images-là, la semaine dernière.
Arrêtons de parler de prise d'otage.
Il y a quelques jours. Il y a quelques jours à l'aéroport.
Si vous ne laissez pas m'expliquer, vous n'allez pas comprendre.
Jimmy, grève du zèle. Gratuitement.
Non, déjà, la première chose, c'est qu'arrêtons de parler de.
Surtout à longueur.
En plus, toi, t'es directeur du RAID. dernière fois, tu avais employé ce terme-là de prise d'otage. Vous devriez pas utiliser ce terme-là. Parce qu'une prise, non, c'est pas une prise, c'est quoi une prise d'otage? Tu sais, c'est très bien.
Aussi,
une prise d'otage, ouais, c'est le Bataclan de prise d'otage, d'accord?
Oui, c'est imagé.
C'est ça le prix, c'est imagé.
C'est imagé, comme disait
Qu'est-ce qu'une grève? Qu'est-ce qu'une grève?
Ben, les vacanciers sont pris en otage.
Alors, je vous explique.
Ben, si, quand on peut pas prendre son avion.
Qu'est-ce qu'une grève?
Ne font-ils pas la grève du zèle?
Qu'est-ce qu'une grève? Une grève est une coalition du peuple travailleur qui, à un moment, pose des revendications.
Expliquez ça au mec qui est dans le hall de Orly qui attend.
Ça veut donc dire quoi?
C'est ça.
Ça veut donc dire quoi? Déjà, la première chose, c'est que beaucoup d'usagers sont d'accord avec le cheminot. Le problème, c'est que les médias font bien leur jeu pour essayer de casser la coalition du peuple travailleur qui, à un moment, pose la revendication universelle et universalisable qui est augmentation des salaires pour tous les travailleurs, qu'ils soient publics ou privés.
Donc,
et nous, on dit quoi? Nous, on dit quoi? Qu'est-ce que disent les cheminots?
Alors, Bruno Pomard, il me reste combien de temps? On doit rendre l'antenne? Sérieux?
Ah, dommage.
Tu nous alignes des éléments de langage. Le mec est dans le hall à Orly ou dans la gare à attendre. Va lui expliquer ce que tu es. On y va tout à l'heure. Et tu vas voir un petit.
Et la plupart sont d'accord avec
ma commerciale qui vient de Méru n'a pas pu venir au bureau à cause de la grève.
Et voilà.
Après, je comprends la condition, mais malheureusement, vous devriez faire un truc, c'est la grève du zèle. Gratuité des transports. Là, ça fait très mal.
Bravo!
Sans la proposer.
Quel programme de Thème Sport?
Spécial Italie et football italien ce soir.
Ah, la classe. Vous avez des invités de Marcio.
C'est ça. Avec Michaela, justement, qui nous vient tout droit du Milan, et sans oublier aussi Romain Marcilli. Voilà.
C'est le programme qui vous attend de 20h. Merci Bilal Nedman.
Merci.
20h-21h, c'est le show sport qui vous attend dans quelques minutes. Merci à Yanis à la réalisation. Merci Bruno Pomard.
Merci.
Merci Jimmy Dalico.
Très content de venir.
Merci Gamal Abina. Avec grand plaisir partagé. Ouais. On ne lâche rien. Demain, avec autant de plaisir. Ciao.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.